Il est 4h en temps universel, vous écoutez Radio France Internationale à Rome, il est 6h. On retrouve Pierre Boudias pour le journal. Bonjour Pierre.
Bonjour Edouard, bonjour à toutes et à tous. Et
il commence au Vatican avec ses files d'attente qui s'allongent devant la basilique Saint-Pierre.
Des milliers de fidèles se pressent depuis hier pour rendre un dernier hommage à la dépouille du pape François avant ses funérailles samedi. Une cérémonie qui s'annonce chargée en émotions pour les proches du souverain pontife. Vous entendrez l'un d'eux dès le début de ce journal. Situation humanitaire toujours plus catastrophique à Gaza. Déjà tendue, elle s'est aggravée avec l'encerclement de Rafah par l'armée israélienne. Une décision qui a privé l'enclave palestinienne d'une large part de ses terres agricoles. 20 ans de prison requis contre Matata Ponyo en RDC, l'ancien Premier ministre poursuivi pour détournement présumé de 200 millions d'euros, un dossier lié au projet du parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Et puis la Chine poursuit sa conquête des étoiles. Pékin annonce le départ imminent de 3 astronautes vers la station spatiale Tiangong. Nouvelle illustration des grandes ambitions de Pékin en matière spatiale. Ils sont déjà près de 20 000 à avoir offert un dernier au revoir au pape François, des fidèles catholiques qui défilent devant la dépouille du souverain pontife, exposée depuis hier à la basilique Saint-Pierre. Elle y restera jusqu'à vendredi soir. Samedi matin encore, la foule devrait être au rendez-vous pour les obsèques du prélat argentin décédé lundi. Parmi eux, des chefs d'État et de gouvernement, des anonymes, mais également des proches et anciens collaborateurs du pape. Parmi eux, Roberto D'Agosti, qui fut l'un de ses conseillers dans les années 1990. Écoutez son témoignage. Témoignage recueilli à Rome par nos envoyés spéciaux Jade El Khoury et Daniel Valo.
C'est en
1994 que Roberto D'Agosti fait la connaissance de Jorge Mario Bergoglio. Bien loin de se douter que l'évêque auxiliaire de Buenos Aires, avec lequel il travaillera durant 7 ans, deviendra plus tard le pape François.
J'étais chargé des communiqués de presse, de la transcription de ces homélies. À l'époque, on communiquait par fax. Après, on est passé au mail, mais au début, c'était le fax. C'est lui qui est allé acheter la machine et qui l'a mise dans mon bureau.
Roberto D'Agosti se souvient d'un homme simple et proche de ses collaborateurs. Un homme capable de décisions difficiles, mais aussi doué d'un sens inné de la communication.
Je dis toujours qu'il communiquait d'abord par le silence, ensuite par les gestes et enfin par les paroles. Et ses silences et ses gestes disaient 1000 fois plus que des mots.
Resté à Buenos Aires pour y poursuivre sa carrière, Roberto D'Agosti n'accompagne pas François à Rome lorsqu'il devient pape. Mais il reste en relation avec lui jusqu'au dernier moment.
Vendredi dernier, il m'a envoyé un message qu'il ne pouvait écrire lui-même et il s'en est excusé. Il m'a envoyé une bénédiction pour moi et ma famille.
Ce samedi, lors des funérailles, c'est par une prière que Roberto D'Agosti répondra, faute d'avoir pu le faire à temps, à ce dernier message. Jade El Khoury, Daniel Valo, Rome, RFI.
Les obsèques sont prévues à 10h de Rome, place Saint-Pierre samedi. Le Vatican observera ensuite 9 jours de deuil. Le conclave qui décidera de l'identité du nouveau pape doit avoir lieu dans les 15 à 20 jours après la mort du précédent chef de l'Église catholique. Et avant de se rendre au Vatican pour assister à cette cérémonie, le président ukrainien est en déplacement en Afrique du Sud ce matin. Volodymyr Zelensky doit être reçu par le président Cyril Ramaphosa, un temps critiqué pour son positionnement pro-russe. Le chef d'État ukrainien, une nouvelle fois pris à partie par Donald Trump, hier, le président américain accuse son homologue de faire obstacle à la paix en refusant de reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée annexée illégalement en 2014. Dans ce contexte, de nouvelles frappes russes ont fait 9 morts et 63 blessés dans la nuit à Kiev. Nous y reviendrons plus largement dans le journal de 5h, temps universel. À Gaza, les bombardements israéliens ont fait 36 victimes hier, selon les autorités sanitaires locales. L'enclave palestinienne où la situation humanitaire s'est encore dégradée depuis le 12 avril dernier et l'annonce par Israël de l'encerclement complet du gouvernorat de Rafah. Un corridor du nom de Morag entre les villes de Rafah et de Ran Younes est entièrement contrôlé désormais par l'armée israélienne. Des opérations appelées à s'étendre. Les conséquences humanitaires donc se sont elles rapidement fait sentir. Abla Junaidi.
Il y a une dizaine de jours, le ministre israélien de la Défense annonçait que Rafah était devenue une zone de sécurité. Les populations, en panique, ont fui vers El Mawassi, zone prétendument humanitaire plus au nord. Derrière elle, elle laisse un paysage que certains décrivent comme apocalyptique, très loin de ce que ces terres étaient à l'origine, comme l'explique l'économiste Mohamed Abou Jiab au micro de notre correspondant à Gaza, Rami El Merari.
Ce sont des zones essentiellement agricoles. Il y a la zone d'Al-Mawassi et le sud de la ville de Rafah. On estime que l'entrée des forces armées israéliennes à Rafah a détruit entre 30 et 40% de la production agricole. Ces opérations militaires ont eu un effet direct et négatif sur les marchés, que ce soit sur la disponibilité des produits ou sur le prix des légumes comme les oignons ou l'ail. Plus ces opérations s'étendent, plus les terres agricoles sont abandonnées et l'insécurité alimentaire augmente à Gaza.
Pendant des mois, certains agriculteurs locaux prenaient des risques mortels en continuant à travailler leurs terres. Ce n'est plus une option depuis que la zone a été déclarée zone de sécurité. Les images satellites sont parlantes. Les couleurs en un an sont passées du vert à l'ocre. Selon l'estimation la plus récente de l'ONU, 75% des terres cultivables de Gaza ont été endommagées par le conflit.
Abla Jounaidi, dans ce contexte, le président de l'autorité palestinienne a appelé hier le Hamas à libérer les otages israéliens encore retenus à Gaza. Mahmoud Abbas estime que le peuple palestinien paye le prix de la guerre, pas Israël. Il accuse le mouvement islamiste d'avoir fourni des prétextes au gouvernement de Benjamin Netanyahou pour lancer son offensive. Des propos insultants, a réagi un membre du bureau politique du Hamas. RFI, il est 5h06 à Kinshasa, la République démocratique du Congo, où depuis 3 ans, l'opposant Matata Ponyo est poursuivi pour détournement présumé de près de 200 millions de dollars, une somme destinée au projet du parc agroalimentaire de Bukanga-Lonzo lorsqu'il était chef du gouvernement entre 2012 et 2016. Hier, le procureur général de la Cour constitutionnelle a donc requis 20 ans de prison contre l'opposant en son absence. Compte rendu d'audience signé Pascal Moulégua.
Il n'est pas encore 11h quand le procès reprend. Les 9 juges font leur entrée, mais aucun accusé ne se présente. Matata Ponyo avait déjà brandi son immunité de député fraîchement acquise. Ces deux co-accusés, à savoir l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Gracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler, ont invoqué des raisons de santé. Dans la salle d'audience, la tension monte, les procureurs généraux sonnent la charge.
Il est inacceptable que les prévenus puissent narguer la plus haute juridiction du pays. Les immunités ne sont pas synonymes d'impunité. Il était sous l'effet des poursuites lorsqu'il a acquis les statuts de député national. Il ne peut pas aujourd'hui, par des subterfuges, par des affabulations, vouloir créer des dilatoires et empêcher la Cour de faire son travail. Ce prévenu est en train de se moquer de la justice.
Après une courte pause, le président de la Cour a ordonné la poursuite de l'audience.
Nous continuons l'instruction. Monsieur le procureur général, vous avez la parole.
Des inspecteurs des finances se sont succédés à la barre pour enfoncer Matata Ponyo, accusé d'un détournement présumé de 195 millions de dollars dans un projet qualifié de flou et mal encadré. Les réquisitoires n'ont pas tardé.
Tous les éléments constitutifs des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de les condamner chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate.
Le verdict sera rendu le 14 mai. La défense avait déjà contesté la cour, estimant que 2 des juges sont hors mandat. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
À la République démocratique du Congo, où le gouvernement et le groupe armé de l'AFCM-23 disent tous deux vouloir une trêve. Pour la première fois, les belligérants ont publié hier une déclaration conjointe où ils réitèrent leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités durant toute la durée des pourparlers. Pour rappel, le groupe armé soutenu par le Rwanda est toujours en contrôle des capitales provinciales de Goma et Bukavu dans l'est du pays. Français et Madagascar s'entendent pour créer une commission mixte sur l'avenir des îles éparses. L'archipel français, qui occupe une position stratégique dans le canal du Mozambique, est revendiqué par Antananarivo depuis plusieurs années. En déplacement sur la grande île, le président français Emmanuel Macron a également annoncé la signature de plusieurs accords importants concernant l'énergie, le numérique, les infrastructures ou encore le tourisme. Son homologue malgache, Ange Radzoel, a lui souhaité que la France s'investisse encore plus dans son pays et en soit toujours plus proche. La France, où le procès de Joël Le Squarnec se poursuit. L'ancien chirurgien est jugé devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes, dans l'ouest du pays, pour viol et agression sexuelle sur 300 patients. Des faits commis entre 1989 et 2014 dans plusieurs hôpitaux de l'ouest de la France où il exerçait. Ce mercredi, plusieurs victimes ont à nouveau témoigné à la barre. C'est le cas de celui que nous appellerons Antoine, hospitalisé en 2006 dans la ville de Quimperlé. Son témoignage illustre la toute-puissance de Joël Le Squarnec au sein de l'hôpital et les répercussions de ces abus sur des familles entières. Baptiste Coulon.
Quand Antoine arrive à l'hôpital de Quimperlé un matin d'avril 2006, c'est pour y être opéré d'un banal kyste au niveau du nombril. À son réveil, l'après-midi, il se souvient de visites répétées de Joël Lesquarnec dans sa chambre. Il m'a demandé si mon pansement saignait, puis m'a fait subir une masturbation. L'enfant de 12 ans fait un malaise, alors sa mère est rappelée sur place. Le chirurgien souhaite qu'il reste en observation pour la nuit. Antoine ne veut pas. J'ai dit que je le surveillerai à la maison, raconte sa mère à la barre. Mais le docteur Lesquarnec a insisté pour le garder. Il a dit que c'était le protocole. Antoine est en pleurs quand sa mère quitte l'établissement. « Aujourd'hui, je me sens encore coupable », dit-elle. « Comment pouvait-il me faire confiance désormais ?» Antoine raconte sa colère sans pareil, la distance qui s'installe avec son père et surtout sa mère. « J'en voulais même à son chien qu'elle a préféré promener au lieu de rester avec moi. » Aujourd'hui âgé de 31 ans, l'homme dit avoir passé le plus dur, assure être bien entouré. Sa mère abonde, nous retournons ensemble à la piscine, il m'appelle à nouveau maman.
Baptiste Coulon, l'Inde prend des mesures diplomatiques contre le Pakistan. New Delhi annonce la fermeture du principal poste frontière terrestre avec son voisin et le blocage d'un important traité sur le partage de l'eau entre les deux pays. Le gouvernement indien accuse son rival de terrorisme transfrontalier après l'attaque qui a provoqué la mort de 26 touristes mardi. Le Pakistan convoque en réponse au comité de sécurité nationale aujourd'hui. Le Pakistan qui enverra dans un avenir proche deux astronautes vers la station spatiale chinoise. Ils seront les premiers étrangers à poser le pied sur cette base baptisée Tiangong. Avant eux, ce sont trois astronautes chinois qui partiront très prochainement pour cette station, a annoncé Pékin. Une mission baptisée Shenzhou 20 pour remplacer trois taïkonautes présents depuis octobre dernier. Elle illustre toute l'ambition chinoise en matière spatiale, Cléa Broadhurst.
À bord, on retrouve un vétéran, Chen Dong, déjà impliqué dans la construction de la station lors de la mission Chenzhou 14, et deux nouveaux venus, Chen Zhonghui, ancien pilote de l'armée de l'air, et Wang Jie, ingénieur du secteur spatial. Leur séjour de 6 mois sera consacré à des expériences scientifiques, des sorties extravéhiculaires et à l'amélioration de la station. Avec cette mission, la Chine montre qu'elle est non seulement capable de rejoindre l'orbite, mais surtout d'y rester. Une prouesse que seuls quelques pays maîtrisent, exclus de l'ISS pour des raisons de sécurité nationale liée à l'influence de l'armée chinoise dans le programme spatial, la Chine a choisi la voie de l'autonomie stratégique et elle y parvient. La station Tiangong n'est pas qu'un laboratoire scientifique, elle est aussi un tremplin vers la Lune que Pékin espère atteindre avec un équipage humain d'ici 2030. C'est aussi un outil de diplomatie spatiale alors que la Chine commence à tendre la main à d'autres pays, notamment dans le sud global. Un pas solide et régulier dans une trajectoire qui pourrait bien changer durablement l'équilibre des puissances dans l'espace. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
RFI, les 4h12 en temps universel.
RFI, toute l'actualité, Pierre Boudias.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 4h30 à suivre dans 5 minutes ce crève-cœur pour les propriétaires d'animaux de compagnie britanniques. Ils sont des centaines à devoir renoncer à leur boule de poil en cause la hausse du coût de la vie. Paul McCartney, après les Beatles, ça donnait quoi? La question au cœur de la bande dessinée Paul qui revient sur 4 ans de la vie du chanteur suite à la séparation du mythique groupe britannique. Hervé Bourris, son auteur, est l'invité de Sophie Torlotin ce matin. Et puis on parlera chute de cheveux juste avant 4h30 avec Caroline Paré et son invité. Merci d'écouter RFI. Il est 7h13 à Athènes. Ce n'est pas nous qui allons dire le contraire. La radio peut être un formidable outil ludique et pédagogique d'éducation, notamment aux médias. C'est justement ce que propose depuis une dizaine d'années le réseau européen School Radio, installé dans les locaux de l'Université internationale de Thessalonique en Grèce. Cette structure éducative a organisé mi-avril un festival radiophonique destiné aux enfants et aux adolescents grecs, avec des jeunes venus de France, d'Allemagne ou encore de Chypre. Alors comment s'informe-t-il? Comment aborde-t-il les fausses informations? Joël Brunner est allé leur poser la question à Neos Marmaras, pardon, dans le nord de la Grèce.
L'événement, cette mi-avril, c'est la soirée d'ouverture d'un festival radiophonique destiné aux jeunes qui regroupe près d'un millier de participants au total. Jeunes français, allemands et grecs, notamment venus réaliser un podcast pour documenter, comme des apprentis journalistes, leur passage au festival. Un projet baptisé Kids Radio Europe. Casque sur les oreilles et enregistreur à la main, Jade, 16 ans, profite d'une excursion dans la forêt pour se fondre dans le rôle de reporter et capturer l'atmosphère sonore environnante. Face à la multitude d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, L'adolescente se dit méfiante.
Quand j'entends ma sœur en parler qu'il y a eu ce qui s'est passé ça ou ça sur TikTok, j'ai tendance à aller sur internet voir si c'est réel ou pas. Et puis après, c'est plus fiable quand ça vient de médias officiels pour moi, parce qu'il y a des gens derrière qui ont revérifié, vérifié, revérifié l'info.
Ses jeunes collègues grecs, Johanna, 16 ans, et Anna, 15 ans, affirment également pratiquer la culture du doute.
Pour l'actualité, je m'informe bien sûr un peu via la télévision, mais surtout via Internet. Je consulte plusieurs sites pour être sûre que les informations soient fiables. Quand les journalistes grecs exagèrent, quand ils en font des tonnes, je ne leur fais pas confiance.
C'est principalement à la télé que je suis les informations. Et ici, à la télévision, je trouve que les journalistes exagèrent beaucoup. Ils rendent les sujets beaucoup trop dramatiques. Ça peut pousser les gens à croire des choses qui ne sont pas vraies. Et je pense que ça va être encore pire dans le futur avec l'intelligence artificielle. Nous, les jeunes, on l'utilise, mais elle peut aussi contenir de fausses informations.
D'où l'intérêt pour leurs encadrants d'initier enfants et adolescents à l'univers de l'information. Mirto Stamelaki dirige ce projet européen d'éducation aux médias au sein de l'association Les Francas. Elle en résume la mission éducative.
Comprendre comment ça fonctionne le monde des médias, comment on peut aller chercher une information, vérifier une source. Notre objectif principal, c'est développer l'esprit critique.
Esprit critique, oui, mais l'initiation aux médias et à l'outil radio passe aussi par la dimension ludique. Ici, Laura, 12 ans, informe ses auditeurs des péripéties du séjour via un carnet de voyage.
Un drame vient de se produire. Laetitia a découvert que la machine à café ne marchait plus.
Documenter le monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit, voilà peut-être pour ces collégiens et lycéens européens l'une des leçons de ce festival radiophonique. Quitte à décrire un monde confronté à des réalités difficiles, comme le manque de caféine. Joël Brunner, de retour de Neos Marmaras, RFI.
Voilà, et bien sûr, pour lutter contre les fausses informations, vous pouvez retrouver sur RFI en podcast les dessous de l'Infox avec Sophie Malibeau. 4h16 en temps universel, vous nous écoutez peut-être avec votre meilleur ami installé à vos pieds ou sur vos genoux. Eh bien, imaginez maintenant devoir vous séparer de votre chien, de votre chat ou encore de votre perruche faute de moyens financiers. Un véritable crève-cœur que vivent de plus en plus de propriétaires d'animaux de compagnie au Royaume-Uni. Conséquence de l'explosion du coût de la vie et cette situation dramatique prend de l'ampleur ces derniers mois. On fait le point avec notre correspondante Sidonie Gaucher. Sidonie, bonjour.
Bonjour.
Sidonie, alors ces abandons sont de plus en plus fréquents.
Eh bien oui, c'est une réalité de plus en plus visible au Royaume-Uni. Depuis plusieurs mois, les refuges pour animaux tirent la sonnette d'alarme. Ce ne sont plus seulement des cas isolés, mais une véritable vague d'abandons qui touche tout le pays. À l'origine de cette situation, la pression économique qui s'intensifie mois après mois, car depuis la fin de la pandémie, le coût de la vie a explosé. En octobre 2022, l'inflation a dépassé les 11%, un niveau historique. Alors, depuis, beaucoup de foyers n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs animaux. Nourriture, soins vétérinaires, accessoires, tout coûte trop cher. Résultat, les animaux sont abandonnés. Depuis le début de 2025, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux a recensé plus de 5700 abandons. C'est 32% de plus qu'à la même période l'an dernier. Et ce phénomène s'inscrit dans la durée puisqu'en 2024, 22 500 abandons avaient déjà été signalés, soit une hausse de 7% par rapport à 2023.
Des chatons abandonnés dans des boîtes, des perruches laissées à l'extérieur en pleine nuit. Les refuges sont débordés, Sidonie. Certains propriétaires sont confrontés à des choix déchirants.
C'est exactement ça. Il y a une réelle détresse chez ceux qui poussent la porte des refuges. Elvira Mussey Lyons, qui dirige le refuge Mayhew à Londres, raconte que les gens arrivent tristes, honteux et frustrés. Parce que pour beaucoup, la situation est si terrible qu'il faut choisir entre manger soi-même ou nourrir son animal. Depuis le début de l'année, son refuge a accueilli plus de 130 animaux et ce chiffre grimpe chaque semaine. C'est du jamais vu depuis 25 ans. On retrouve des chiens attachés aux grilles du centre, des lapins qui sont abandonnés dans des parcs. C'est une situation sans précédent.
Alors Sidonie, peut-on dire que c'est également le contre-coup de toutes ces adoptions, on s'en souvient, durant le Covid?
Oui, tout à fait. Pendant les confinements, beaucoup ont adopté pour combler le sentiment de solitude. Mais une fois le quotidien revenu avec la reprise du travail, les transports, les horaires à rallonge, certains se sont trouvés débordés. Et avec la crise économique qui s'est greffée par-dessus, la situation est devenue intenable.
Sidonie Gaucher, merci beaucoup. Vous étiez avec nous depuis le Royaume-Uni. Son amour des animaux lui avait inspiré le magnifique Heart of the Country. En 1971, le chanteur britannique Paul McCartney, au cœur d'une très belle bande dessinée dont on parle tout de suite avec l'invité culture de la matinale.
When you were young and your heart was an open book.
Hervé Bourus, bonjour.
Bonjour.
Paul est le troisième album que vous consacrez aux Beatles. Vous avez une passion pour ce groupe.
Oui. Là, effectivement, je me focalise sur un seul des quatre, celui qui me semble le plus solaire.
Paul McCartney, donc, ouais. Et pas à n'importe quelle période. 1969-1973, la fin des Beatles et ses débuts de carrière en solo ou avec le groupe des Wings.
Oui, parce que c'est une période qui n'est pas si connue. Il y a plein d'anecdotes super drôles. Et je voulais qu'on assiste à la séparation des Beatles, donc juste après cette période de Get Back. Donc je voulais que ce soit le point de départ de cette histoire. Et la dépression qui a suivi chez Paul McCartney après cette séparation.
Et dans cette bande dessinée, Hervé Bourus, c'est Paul qui raconte à la première personne, oui. Et aussi Linda, oui. Sa femme, photographe américaine.
Oui, c'était important pour qu'on se rapproche de lui, en fait, hein, tout simplement. En fait, c'est assez logique parce qu'il l'a raconté, lui, plusieurs fois dans des livres. Il racontait qu'à cette période-là, effectivement, il commençait au whisky dès le matin, quoi. Il a vraiment fait une dépression et il s'en est sorti grâce à Linda. C'est aussi pour ça qu'elle est super importante dans cette histoire. Elle l'a sauvée, quoi, en fait, tout simplement.
Elle était comme Yoko Ono, mais pour des raisons différentes. Linda McCartney a été très attaquée aussi par les fans.
Oui, parce que c'est les années 70, et donc on la considérait comme une femme au foyer, qui s'occupait de ses enfants. Mais ils étaient ringards tous les deux, hein, dans les années 70. Paul aussi, parce qu'il s'occupait de sa maison, il élevait des moutons, et c'était pas du tout rock, quoi. Et Paul avait une vie qui est bizarrement plus moderne aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant. Never seen no one.
Paul McCartney, donc il fonde un groupe avec sa femme. Elle n'est pas du tout musicienne. Linda McCartney, il la met au clavier. Elle connaît rien.
Ça devait pas être simple. Paul, il a jamais voulu que les Beatles arrêtent les concerts. Ils ont arrêté les concerts en 66. Donc le premier truc, dès quand il y a eu la séparation et qu'il est sorti de sa dépression lourde, ça a été d'immédiatement reprendre les concerts, mais de façon très humble. Donc on loue un van. On engage des musiciens pas très connus et c'est parti. Alors on est en février 71, ils sont dans un van et ils vont avec tous les instruments et les enfants et les chiens et ils vont faire la tournée des campus mais sans les prévenir.
Les campus, les universités.
Universités. Donc c'était complètement improvisé, complètement fou.
Hervé Bourus, on découvre que Paul McCartney et le groupe, hein, les Wings, ont enregistré un album à Lagos et ont rencontré Fela.
Oui, c'est une drôle d'histoire. En fait, ils voulaient changer un petit peu des studios londoniens. Ils se sont dit, on va aller en Afrique, là. Et il y a un studio EMI à Lagos. Sauf que Fela, qui est donc le patron de Lagos, a entendu parler de cet anglais qui venait enregistrer et n'était pas content. Il a considéré qu'il venait voler la musique africaine. Fela a été voir Paul en studio avec ses copains armés. Ils ont discuté, c'était très tendu. Mais Paul, c'est un gars de la rue aussi, de Liverpool, donc il sait pas... Je pense qu'il a flippé, mais il l'a pas trop montré. Et ils ont écouté les bandes, et Fela était content, et il a considéré qu'effectivement, ils n'avaient pas du tout volé la musique africaine, et qu'ils sont devenus copains. Et Paul raconte souvent qu'il a vu ce concert au club de Fela, qui s'appelle Africa Shine, où c'était un concert de 4 heures complètement dingue, et qu'il a pleuré tellement c'était beau.
Hervé Bourus, merci.
Merci à vous.
Sophie Torlotin, Paul McCartney, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est à retrouver dans la bande dessinée Paul d'Hervé Bourus, édité chez Casterman. 4h23 en temps universel, l'heure de retrouver Caroline Paré pour le Conseil Santé.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
On parle aujourd'hui chute de cheveux avec le docteur Philippe Assouli.
Docteur Philippe Assouli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue spécialiste du cuir chevelu au centre Saboureau de l'hôpital Saint-Louis à PHP à Paris. Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser la chute des cheveux ?
Alors, ce qui favorise la chute de cheveux, c'est mille choses, dans le sens où la chute de cheveux, c'est un symptôme. C'est comme si on parlait du mal au ventre ou autre chose. Et donc, quand on a quelqu'un qui vient consulter pour un problème de chute de cheveux, il va tout de suite avancer toutes les hypothèses, toutes les théories, tout ce qu'il a pu lire. Et il faut reprendre à zéro et avoir une espèce d'algorithme dans la tête qui va faire que, est-ce que c'est une chute dans laquelle il y a une perte de cheveux? Est-ce que ça crée une alopécie? Donc, il y a un manque de cheveux? Ou est-ce que c'est juste une chute? Depuis combien de temps ça dure? Quelle est l'ascendance ethnique de la personne en question, puisque ça donne une orientation pour certaines pathologies. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, etc., etc. Et donc, on arrive à des diagnostics ou un diagnostic, des éliminations de diagnostics, et on voit s'il y a besoin de faire des examens complémentaires ou pas d'examens complémentaires, c'est-à-dire une prise de sang, un prélèvement de peau, etc. Et donc, c'est un terrain extrêmement vaste au début, et les vieilles théories qui étaient les théories un peu comme si le cheveu c'était comme du gazon dans lequel on met de l'engrais et ça pousse, les vitamines, les piqûres dans les fesses et autres, ça n'a vraiment aucun sens par rapport à la physiopathologie d'un problème de chute de cheveux.
Merci beaucoup docteur Philippe Assouli, aujourd'hui dans Priorité Santé, on va parler du cancer. Un oncologue à votre écoute qui répond à toutes vos questions. Rendez-vous 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Caroline Paré, à tout à l'heure Caroline. Allez, comme tous les jours, pour refermer ces 30 minutes d'information, on va tout de suite retrouver le choix des programmateurs en playlist ce mois-ci sur RFI. On va parler de l'événement rap du moment, Dochi, originaire de Tampa en Floride, de son vrai nom Jayla Jimia Hickman. Elle a notamment remporté le Grammy Awards 2025 dans la catégorie meilleur album rap avec Alligator Bites Never Heal. Le titre Daniel is a River est un extrait de cet opus qui touche la perfection, tant la production est efficace et le flow nous emporte. Elle y parle d'elle et de ses propres expériences face à ses souffrances personnelles et arrive à en faire un témoignage authentique. Ce titre est déjà un classique.
Hey, I thought it was all over.
What's up, Dolce?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's
yeah.
Been a minute, yeah.
I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so...
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay.
Remember old dude from 2019? Nice, clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Dochi do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turned a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood, what can I say, the shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low, and just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I own.
Le flow de Dochi, Daniel is a River, pour clôturer ces 30 minutes d'information. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Arthur Geoffroy qui était à la réalisation. Léa Boutin-Rivière était à la rédaction en chef. Restez avec nous. Dans un instant, le retour de l'actualité africaine avec Sébastien Duhamel.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix,
Pascal Paradou.
À la lisière d'une forêt dans les Vosges, un pianiste célèbre rend visite à une écrivaine solitaire. Le temps de vivre une passion platonique et de s'enivrer de la nature. Il neige sur le pianiste de Claudie Hunsinger est un éloge vibrant de l'art et du vivant.
Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.